Fin janvier 2025, pendant quelques jours, une poignée de managers de grands médias européens ont participé à un voyage d'études à San Francisco et dans la Silicon Valley. Ce voyage, organisé par la One IFRA, une association mondiale d'éditeurs, a emmené ses participants dans des médias et des startups plus ou moins grandes qui ont en commun d'utiliser ou même de développer des outils d'intelligence artificielle. Et c'est vrai, quoi de mieux que de visiter l'un des centres nerveux mondiaux de l'IA pour en prendre la tension. Salut, c'est Steven Jambot, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI et je vous en remercie. L'émission de cette semaine fait écho à celle du 8 février où je vous proposais un point sur les enjeux et usages de l'IA dans les médias en février 2025. J'avais volontairement mis une indication temporelle dans le titre de l'épisode pour signifier que nous sommes bien conscients que tout va très vite dans ce domaine actuellement. Aujourd'hui, on va faire un peu de prospective avec Aurélien Viers, qui a participé au voyage dans la Silicon Valley dont je vous parlais en introduction. Journaliste reporter d'images pendant plusieurs années à LCI puis au Japon pour TF1, Aurélien Viers a ensuite acquis une solide expérience de rédacteur en chef numérique à CitizenSide, puis à L'Obs et au Parisien. Enfin, jusqu'en octobre 2024, il était le directeur de la rédaction du quotidien La Provence. Son départ, en octobre 2024 donc, a été chroniqué, mais ce ne sera pas le programme de notre conversation du jour. Aurélien Viers est maintenant journaliste et consultant, spécialiste des formats visuels et maintenant avec de l'IA dedans. Bonjour Aurélien Viers.
Bonjour Steven.
Et bienvenue à ce micro. Ensemble, nous allons revenir sur 10 infos que tu as retenues de ton voyage dans la Silicon Valley. Je précise que chacun de ces 10 points apparaît dans la version podcast de l'Atelier des médias, si jamais le temps nous était compté pour la version radio de cette émission. Aurélien, on va commencer par le premier point. Déjà, c'est une sensation de vertige d'une nouvelle ère pour les médias que tu as ressentie dans ce voyage.
Tout à fait. On débarque à l'aéroport à San Francisco, on est sur l'autoroute. Déjà, il n'y a que des pubs, que des affiches pour l'IA, que des services IA partout. On débarque dans une rédaction, l'une des plus anciennes de San Francisco, le San Francisco Chronicle, un journal honorable, un quotidien régional à San Francisco. Et bien sûr, ils sont pris dans le tourbillon de l'IA. Toute la ville tourne autour de l'IA et ils se posent bien sûr beaucoup de questions. Donc, tout ne va pas changer d'un coup d'un seul, mais il y a des choses qui bougent au sein de la rédaction pour se mettre à l'heure de l'IA.
Alors, en fait, ce qui ressort aussi de ces premiers rendez-vous que tu as, c'est un monde dans lequel Google, ce moteur de recherche planétaire, n'aurait plus le monopole de la recherche sur Internet.
Oui, pourquoi on parle de vertige, c'est que je suis journaliste web, rédacteur en chef numérique depuis plus de 15 ans et j'ai l'impression que tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai fait, tout notre schéma de pensée est en train d'évoluer très vite. Tout va pas bouger d'un coup d'un seul, mais ça va bouger et ça bouge déjà. Et le soleil, l'astre autour duquel on tourne tous, c'est Google. C'est 3 milliards d'usagers par jour, 8 milliards de requêtes. Et tout le monde regarde sa prochaine évolution. Et on est habitué à ce que les Américains appellent un monde de petits liens bleus. On pose une requête sur Google, on cherche un mot et puis on a une série de liens. Tout ça, bien sûr, a beaucoup bougé avec ChatGPT qui a un taux d'adoption énormissime. Ça va vraiment très vite. Et donc, il faut se projeter dans un monde où ce ne sera pas la même chose, où Google va forcément évoluer et où le trafic qui vient des réseaux sociaux est en train de diminuer fortement également, où les liens entre les sites, c'est plus évident dans ce nouveau monde-là aussi. Donc, tout ce qu'on a connu en termes de fabriquer des sites d'information, fabriquer des applications, être bien référencé, c'est-à-dire remonter dans les résultats de recherche sur Google, tout ça, forcément, on atteint un terme au bout de 25 ans d'ultra-domination monopolistique de Google et c'est vertigineux pour les médias. Et plus les réseaux sociaux et plus les autres sources de trafic ont baissé ces dernières années, plus Google a pris de l'importance.
Et ce, dans un monde où, on le sait, la fatigue informationnelle continue de croître et donc les médias et les startups que tu as rencontrées essayent de trouver une solution aussi à cette fatigue informationnelle.
Effectivement, c'est quelque chose de très prégnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les élections américaines, les dernières, les élections présidentielles, il n'y a pas eu de sursaut de trafic web. C'est quand même très impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui a tout mangé, qui a prédominé, qui a vu son trafic boosté, c'est le New York Times, qui est en train de manger vraiment toute la sphère médiatique aux États-Unis. C'est vraiment hyper important en termes de domination. Et les autres sites n'ont pas vu ce qu'ils appellent le Trump bump au moment de son élection. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant. Et ils voient effectivement des usagers, des lecteurs se détourner de plus en plus de l'information. Donc, comment adresser l'information, comment faire une information pertinente, de qualité, au bon format. Ça a toujours été la question de la presse, finalement, depuis les débuts de la presse. Et là, elle se repose forcément avec cette fatigue informationnelle qu'il y a, de beaucoup d'infos, beaucoup de sites, de faux sites aussi, hein, qui sont en train d'être créés. Libération a fait une grande enquête avec Next il n'y a pas longtemps à ce propos-là. Il y a des milliers d'articles générés par l'IA qui sont là tous les jours. Donc, ça agite au bruit et à la fatigue informationnelle de trouver une information pertinente qui vous correspond, faite pour soi, avec une information originale, de qualité et fiable.
C'est ça, les rédactions s'orientent et essayent de recentrer leurs activités vers leur cœur de métier, l'originalité, l'info exclusive, les breaking news, l'enquête. Et pour ça, eh bien, les rédactions attirent des profils qui sont les meilleurs, qui sont spécialisés et qui savent faire des choses, notamment jouer sur la spécialisation, justement, et pas sur des journalistes généralistes qui sachent tout faire.
C'est ça. On a l'impression qu'avec l'IA, tout peut arriver comme ça, très vite, on a la réponse à tout, c'est toujours waouh. Donc effectivement, tu as raison de le souligner, Steven, déjà, le San Francisco Chronicle se repositionne sur l'alerte, puisque l'alerte info, l'info chaude, c'est le cœur d'un média réactif, chaud, qu'il soit un quotidien ou un site web. Les informations originales exclusives, tout ce qui est enquête, ça, l'IA peut pas passer des coups de fil et faire des enquêtes toute seule. Et puis les informations servicielles, on en reparlera. Mais pour avoir tout ça, avoir de l'info originale, il faut les meilleurs. Donc ils vont débaucher les meilleurs à prix d'or parfois, hein, que ce soit des journalistes sportifs, des journalistes très spécialisés. Par exemple, ils avaient des rubricards météo, ils ont préféré embaucher des météorologues au San Francisco Chronicle, des scientifiques. Et ça leur a servi très vite, puisque les incendies à Los Angeles et les météorologues ont tapé à la porte du rédacteur en chef en lui disant « Attention, ces incendies-là, il y en a eu d'autres dans le passé, mais ceux-là vont être très puissants, ils vont ravager une partie de la ville, il faut prendre la mesure de l'événement ». Ils ont pu dépêcher des reporters sur le terrain, ils ont créé une carte interactive en temps réel des feux à Los Angeles, et ça, c'est grâce à des super, super spécialistes.
Deuxième info que tu retiens de ton voyage dans la Silicon Valley, Aurélien Vierre, c'est que, eh bien, il faut investir dans le journalisme augmenté à l'IA. Et là, tu as l'exemple du San Francisco Chronicle dont tu parlais tout à l'heure.
Tout à fait, ils ont développé une cellule, ils avaient déjà un embryon de cellule avec des data, des développeurs, des data journalistes, des designers. Ils ont renforcé cette équipe avec des nouveaux postes qui n'existaient pas, des AI Automation Engineers, enfin plein de termes scientifiques et plein de nouveaux profils. Et ils font maintenant ce qu'on pourrait appeler de la data visualisation boostée à l'IA. Et ça marche tellement bien que maintenant, ils rayonnent dans tous les États-Unis puisqu'ils appartiennent au groupe Hearst et que cette cellule basée à San Francisco, dans cette ville de la tech, fait rayonner des formats dans les autres rédactions du groupe. C'est-à-dire qu'ils peuvent réutiliser ces formats-là. Donc, ça prend la forme de plusieurs choses. Par exemple, vous avez plein d'articles, je sais pas, sur des restos, des critiques gastronomiques. Comment faire un agent qui vous trouve un resto pour vos besoins spécifiques, pour tel groupe, tel type de cuisine près de chez vous. Ils ont donc ils font des cartes interactives. Ils vont enregistrer des conseils municipaux et détecter automatiquement des mots-clés qui peuvent donner lieu à des enquêtes. Ils font des live blogs, ils font beaucoup de choses grâce à cette cellule. Donc, ils sont en train de réinventer la newsroom et la manière dont les journalistes peuvent travailler avec des ingénieurs, avec des développeurs pour faire le meilleur journalisme possible. Et c'est plutôt une chance, une opportunité pour le journalisme de bien pouvoir utiliser l'IA.
Quand tu disais, Aurélien Vierce, travailler avec la newsroom, ça sous-entend aussi eh bien, des programmes de formation à l'intelligence artificielle au sein des rédactions. Et là-dessus, eh bien, les journalistes sont formés à certains outils, notamment à Notebook LM. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
C'est vrai que la première étape, c'est de former les journalistes et puis de les reformer, puisqu'il y a des nouveaux outils qui sortent tous les jours.
Se mettre à la page, tout simplement.
Se mettre à la page. Et que, il faut se concentrer sur des outils qui sont fiables, qui n'hallucinent pas, comme on dit, puisque c'est un biais de l'IA, on voit des hallucinations, des erreurs. Il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps qui a montré qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les résultats de chat GPT. C'est pas un outil forcément fait pour l'information au départ. Ce qui intéresse les journalistes, c'est de pouvoir, par exemple, travailler sur des documents, un gros rapport, un rapport du GIEC, uniquement sur ce document-là, et de pouvoir en extraire les informations pertinentes pour l'enquête du journaliste. Et s'il a 2, 5, 10 PDF, de pouvoir croiser les sources, de pouvoir les utiliser, de pouvoir les résumer et de pouvoir les éditer, tout ça avec une IA fiable. Et c'est effectivement l'outil de Google, le Notebook LM, est puissant pour ça et apprécié des journalistes, puisqu'il va se concentrer uniquement sur cette source-là.
Sur ce qu'on lui aura soumis. Troisième info que tu retiens de ton voyage dans la Silicon Valley, Aurélien Vierre, c'est que 2005 sera l'année de l'IA et de la vidéo.
En 2025, effectivement, on voit beaucoup de progrès. Depuis 2 ans, ça existe. Il y a un célèbre test qui est celui d'Harry Potter. On dit à une IA, refais-moi une image animée de Harry Potter. Et au début, ça ressemblait à rien. Puis maintenant, ça ressemble à quelque chose de mieux. Mmh. Et effectivement, il y a beaucoup de progrès. La vidéo, c'est quelque chose de compliqué. Moi, ça fait 5-7 ans que je travaille beaucoup sur la vidéo. Et pour le Nouvel Obs et pour le Parisien, la Provence aussi, j'ai beaucoup développé ça. C'est quelque chose de lourd, de chronophage. Il faut bien sûr tourner, monter, post-produire, maintenant faire des sous-titres, mixer. Et dans la Silicon Valley, travailler sur des outils où il y a déjà du montage en ligne, alors qu'on parle de fichiers lourds, donc c'est des outils accessibles en ligne, des outils collaboratifs, on peut travailler à plusieurs dessus, et puis des outils qui vont générer des images, alors là il faut faire attention aussi, générer des images, c'est pas, en journalisme c'est quand même compliqué, mais en revanche on peut parler d'illustration, par exemple il y a beaucoup de choses qu'on illustre à la télévision, on veut illustrer le chômage, l'inflation, c'est pas évident, donc on passe par des images d'illustration, donc ça c'est quelque chose de possible. Il y a des outils qui génèrent même des vidéos à partir d'articles. Alors, il y avait des systèmes qui existaient déjà il y a quelques années qui s'appelaient...
Et Woodsheet aussi.
Woodsheet, voilà. Donc, il y a cette nouvelle génération qui est en train d'arriver où ça sera la génération d'images. On peut aussi, bien sûr, retailler l'image comme on veut, en vertical, en horizontal pour les réseaux sociaux. On peut incruster un journaliste qui parle, on peut incruster un avatar de journaliste. Donc, il faut voir jusqu'où on va, bien sûr, en termes d'éthique et en termes de ligne éditoriale. Mais il y a beaucoup d'inventivité et sur la génération d'images, ça va très, très, très vite, avec bien sûr tous les biais et tous les risques que ça comporte.
Ça va démocratiser, tu le dis, la production de vidéos pour les particuliers ou les petites rédactions.
Tout à fait. Il y a un investisseur qui nous a dit cette phrase intéressante, qui nous a dit TikTok, en fait, a pu démocratiser la vidéo comme on ne l'avait jamais vu. On a vu en France, dans le monde entier, des bouchers, des cantiniers, des éboueurs, des artistes qui faisaient de la vidéo alors qu'ils ne savaient pas forcément faire de vidéo. Mais TikTok a vraiment permis de démocratiser cela en se filmant, en rajoutant du texte. Et on a pu chacun créer des vidéos de manière beaucoup plus simple qu'avant, alors que c'est une technique qui est quand même assez lourde, assez complexe en termes de tournage et de montage. TikTok a permis ça. Et ce qu'ils disent dans la Silicon Valley, c'est que l'IA va permettre à tout le monde de créer de la vidéo beaucoup plus facilement qu'avant. Ça va être encore un sursaut pour créer de la vidéo.
Quatrièmement, on voit apparaître des agrégateurs d'infos qui sont boostés à l'IA et tu as rencontré les responsables d'une start-up qui s'appelle Particle.news.
C'est intéressant, c'est 2 ingénieurs, 2 femmes.
Qui viennent de Twitter justement, c'est ça qui est intéressant.
C'est ça, oui. Ça fait partie de la charrette d'Elon Musk et ça crée de l'inventivité. Dans la Silicon Valley, on dit il y a beaucoup d'argent. Il y a un investisseur qui nous a dit aussi il y a plus d'argent que de bonnes idées. Mais ces 2 ingénieurs ont une idée intéressante, en gros, de recréer un Google News, puisque Google est aussi menacé sur le côté agrégation d'informations. Eux, elles ont passé des deals avec des fournisseurs, c'est-à-dire des agences de presse comme l'AFP. Donc, ce n'est pas des informations qui volent, ils passent des contrats avec des médias. Mais ils vont présenter l'information d'une manière très déroutante. On n'est pas habitué vraiment à ça, c'est-à-dire que c'est des résumés d'informations, c'est en petits paragraphes, c'est sur mesure. On peut décider sur quel thème on va parler. On peut aussi appuyer sur un bouton, par exemple, si c'est un article compliqué, qui s'appelle « Re-rédige-moi cet article comme si j'avais 5 ans ». Et donc, en une fraction de seconde, vous voyez l'article réécrit sous vos yeux d'une manière beaucoup plus simple.
Alors, Particle.news, pour l'instant, c'est une application qui est uniquement disponible sur l'App Store américain, donc pour les possesseurs d'iPhone. Mais ce qui est intéressant, du coup, ce que je comprends bien, c'est que cette société et cette application se présentent en solution tierce, nous désaccord avec les médias, et nous, en tant qu'utilisateurs, eh bien, c'est comme si on interrogeait une base de contenu d'information pour qu'un robot conversationnel, un outil, nous fasse remonter ce que l'on a envie et nous permette de piocher et de creuser nous-mêmes sur les infos qui nous intéressent dans l'actu, en fait, c'est ça.
C'est tout à fait ça. C'est vraiment un agrégateur de nouvelle génération. Il travaille sur beaucoup de projets. On parle beaucoup d'agents. Là, c'est vraiment ce que tu décris, un agent conversationnel. On peut réinterroger aller plus loin, ce qu'on appelle l'information liquide, c'est-à-dire qu'on peut demander une information, de l'avoir de manière plus courte, plus longue, en audio, de converser avec elle. Et ça, c'est tout à fait nouveau comme type d'agrégateur de news et comme mise en scène de l'information.
Et on se rend compte que du coup, il n'y a plus de lien direct entre les utilisateurs et les médias ou leurs médias, mais c'est via une plateforme tierce d'une certaine façon. C'est un petit peu ça qui est déroutant et qui est vertigineux.
C'est ça qui est vertigineux totalement. On a un problème de kiosque depuis le début sur le web. Le grand kiosque, c'était donc Google pendant 25 ans. C'était le moyen d'accès aux informations. Après, les éditeurs ont développé leurs sites, leurs applications. Il y a des agrégateurs aussi comme Caféine qui vont regrouper, par exemple, au presse-relais des titres de presse. Donc, il y a des kiosques virtuels sur le web. Le principal, c'est quand même Google News et Google pour l'instant pour trouver de l'information. Et là, on est en train de réinventer tout cela. C'est un problème pour les éditeurs d'avoir encore des applications tierces qui font obstacle. Ce qui est vertigineux, c'est que certains rédacteurs en chef nous ont dit, mais à quoi on va ressembler dans le futur et à quoi vont ressembler les futurs médias? Peut-être que les futurs médias qui vont se créer seront des bases de données, tout simplement, des bases de données de texte, puisque l'IA se base beaucoup sur le texte actuellement, tout est traduit en texte, des bases de données remises à jour. Au lieu d'aller consulter un article, vous allez nourrir une base de données qui va s'interfacer avec l'IA. Vous allez créer votre propre écosystème d'intelligence artificielle qui va communiquer avec des plateformes pour obtenir et éditer l'information d'une nouvelle manière.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invité est Aurélien Viers, journaliste et consultant. Il nous partage 10 infos qu'il a retenues de son voyage dans la Silicon Valley à la fin janvier 2025. Aurélien, cinquième constat, les robots font exploser le trafic web actuellement.
C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on sait mesurer finement l'audience du web, donc c'est des humains qui cliquaient sur des liens, qui cliquaient sur des sites internet, que ça soit du e-commerce, de l'information. Et là, ce qui est vraiment frappant, ce que tout le monde nous a dit, c'est que ça explose. Mais ça explose pas petitement, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que le trafic web explose. Pourquoi ça explose? C'est qu'il y a des robots qui tournent en permanence. Là où Google, par exemple, passe une ou deux fois sur une page d'article tous les jours, eux, ils vont passer 400 fois, 500 fois, 6000 fois, 60 000 fois pour aller crawler chaque modification, chaque petite information sur le web. Ces robots sont des robots aspirateurs de données. Ils aspirent tout, des chiffres, des faits, des infos, pour nourrir les IA et les entraîner. C'est l'or noir du web, ils en ont besoin. Et il n'y a pas tant d'informations structurées, fiables, authentiques, remises à jour sur le web qui traînent. La presse en fait beaucoup et il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent les informations des éditeurs de presse, les informations des journalistes ont de la valeur. Comme un livre, par exemple, qui sort, qui a mis plusieurs années d'un chercheur à sortir, s'il est mis en ligne, ça a de la valeur, c'est de l'information qui n'existe pas, qui est vérifiée, structurée, qui a un discours, qui comporte des idées, ça a de la valeur. Et donc, il y a une recherche des robots pour tout aspirer sur le web, très souvent de manière illégale, pour nourrir des moteurs de recherche. Les investisseurs veulent de la performance, ils investissent dans des IA, dans des plateformes, il y a beaucoup de concurrence, le marché est très ouvert. Encore une fois, ce qui est vertigineux, c'est que c'est pour la première fois depuis 25 ans, Google n'a plus le monopole, ils sont encore très puissants, ils dominent encore le marché, mais le marché est très ouvert. La mission de Google, c'était quoi? C'était d'organiser l'information mondiale. C'est vraiment leur raison d'être. Et donc, les moteurs de recherche, pour être puissants, ils doivent avoir la meilleure information, la plus fiable possible. Et donc, ils vont lancer des robots et tout le monde se copie, un effet photocopieuse. On sait que, par exemple, YouTube a été entièrement pillé. Les moteurs de recherche vidéo dont je parlais, ceux qui vont générer des images et ceux sur lesquels on fait beaucoup de progrès, ils ne s'entraînent pas sur rien. Ils s'entraînent sur des vidéos qui vont piquer, piller sur le web, partout, là où ils peuvent.
Ce cinquième point qui est en lien avec le sixième, c'est que les médias bloquent les robots, mais de manière totalement inefficace. On en a déjà parlé dans l'atelier des médias, le fait que les éditeurs indiquent dans une ligne de code qu'ils ne souhaitent pas que les grandes entreprises d'intelligence artificielle viennent piocher dans les contenus, ça ne marche pas. De toute façon, c'est comme un sens interdit, qui veut le prend, de toute façon.
Tout à fait. Pourquoi les éditeurs ont commencé à bloquer par défaut ChatGPT et les autres, c'est qu'on a eu un mal fou à se faire payer par Google depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis 20 ans, Google prend des informations, les dispose sur son moteur de recherche. On voit le titre, le chapeau, a fait un site puissant qui s'appelle Google News, qui d'un côté apporte réellement du trafic de l'audience au site web, mais de l'autre, finalement, crée de la valeur sur quelque chose qu'ils n'ont pas investi. Et on a mis 20 ans en Europe et en France à faire une loi sur les droits voisins pour obtenir un financement de Google. Et là, on se dit, voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs en tant qu'éditeur. Là, je parle en tant que professionnel des médias. On a une valeur et donc, on ne peut pas se faire tout piller par tous les moteurs de recherche boostés à l'IA qui sont en train de se créer. Donc, premier réflexe, on a bloqué en France tout ce qui était ChatGPT, OpenAI et les autres. Le problème, c'est que on se rend compte que c'est complètement inefficace. Là, on pensait qu'il y avait 13 robots et une petite ligne de code à faire pour bloquer les robots, les bots, qu'on appelle ça, de ChatGPT et des autres. Ça ne marchait pas. Et qu'au lieu qu'il n'y en a pas forcément 13, il y en a plutôt 1500. Ils ont plein de moyens d'accéder à notre site web. Ils ne sont pas très malins, puisque c'est assez facile de voir qu'on s'est fait piller. Par exemple, vous demandez si c'est la BBC qui dit à un moteur de recherche comme Perplexity, à une plateforme IA comme Perplexity, quelle est la page d'accueil de la BBC aujourd'hui, quelles sont les informations, et que Perplexity vous donne une réponse, alors que la BBC venait de faire un communiqué en disant « nous bloquons l'accès à Perplexity », bon, on voit qu'il y a un problème, hein, qu'il y a une faille. Donc, principal problème, c'est que, pour l'instant, c'est assez inefficace dans la lutte pour ne pas se faire piller, puisqu'encore une fois, on est dans une industrie qui a de la valeur. Faire de l'information, c'est coûteux. Il faut protéger l'univers de la presse et pas tout se faire piquer par les Américains et les Chinois maintenant, qui ont une vision très étrange, très messianique, en disant « nous, on est le futur ». On est là pour apporter l'information de demain, l'accès à l'information de demain. Tout ce qui est sur le web, c'est gratuit. Bah non, en fait, c'est pas gratuit.
Septième point, face à cette situation, une bataille du copyright est en jeu et certaines startups entendent y tirer leur bout de gras et jouer un rôle là-dedans pour défendre les ayants droit, les éditeurs donc.
Effectivement, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer. Il y en a déjà des gros qu'on connaît comme Prorata. Il y en a plein d'autres qui sont en train de se créer ou qui ont pignon sur eux, qui font déjà des deals à plusieurs millions de dollars. En tant qu'éditeur de presse, c'est plutôt bien. Il y a des gens qui nous veulent du bien, finalement, et qui disent ce que je disais, c'est-à-dire que créer de l'information, payer des journalistes pour enquêter, pour sortir des infos, ça a un coût. Et ça a un prix, et on ne peut pas se faire piller gratuitement, pas se faire piller par des nouveaux géants américains ou autres de cette valeur-là. Donc, il y a des ayants droit qui vont passer par des nouveaux systèmes, des nouvelles startups qui disent « on va négocier pour vous ».
Et elles arrivent avec des solutions technologiques qu'elles mettent au service des médias,
tout
c'est
à fait. Il y en a qui proposent des solutions très originales, comme un peu ce qui se passe sur Spotify, où en gros, quand vous lancez un titre sur Spotify, l'ayant droit et la maison de disque, c'est-à-dire que l'artiste et la maison de disque touchent un pourcentage automatiquement. Là, ils disent, si un robot passe sur votre article, on va, pareil, le faire payer à l'usage. On va aussi proposer des forfaits. Donc en gros, on va proposer des abonnements à des robots.
Ça, c'est ton huitième point, donc c'est les bots paywall, donc le fait de proposer des abonnements aux robots.
Ça, c'est quand même très déroutant. Toute l'industrie de la presse actuellement recrute des abonnés payants, c'est le nouveau Graal. On essaye de faire payer, par exemple, les Français pour l'information, pour leur dire c'est un coût. On sait que dans certains pays, c'est plus facile. En France, c'est compliqué. Donc, les abonnements numériques, c'est quelque chose de très important pour la presse depuis plus de 10 ans. Et là, on se dit, mais si ce trafic web explose et s'il y a des robots qui trouvent de la valeur dans ce qu'on fait, faisons les payer. Et donc, il y a des startups qui se mettent sur ce créneau-là en disant, on va créer des bots paywall et faire payer des robots plutôt que des humains pour avoir accès à notre contenu.
Il y a une startup comme ça qui s'appelle Tollbit qui propose ça.
Tout à fait, il y a Tollbit, il y en a d'autres également qui se disent le robot arrive, il a un champ d'inscription, il peut s'inscrire, on propose plusieurs forfaits, soit à l'usage, soit de manière plus globale, et on va faire des deals. Il y a déjà des deals qui se créent, hein, avec Microsoft a par exemple signé avec un éditeur qui s'appelle Harper & Collins, Shutterstock qui par exemple fait des images d'illustration a signé avec des géants de l'IA. Donc il y a déjà des deals qui sont en train de se créer. OpenAI a signé des deals avec des éditeurs comme Le Monde en France. OpenAI est en train de se faire attaquer par le New York Times, et c'est un procès qui va être très 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 suivi.
Tout le monde attend de voir ce qu'il va arriver.
C'est fondamental. New York Times, encore une fois, on ne se rend pas compte de l'importance. On sait que c'est gros, on sait qu'ils ont des millions d'abonnés. On ne sait pas à quel point ils dominent l'écosystème médiatique américain. C'est en train de manger vraiment tout le marché. Si le New York Times gagne ce procès contre OpenAI, ça va être gigantesque. Ça va ouvrir la voie pour d'autres éditeurs pour dire ce qu'on fait a de la valeur, vous ne pouvez pas nous piller nos contenus gratuitement.
Aurélien Vierce, le neuvième point, la neuvième info à retenir pour toi de ce voyage dans la Silicon Valley, c'est un point qui trait à l'expérience utilisateur, l'UX, avec une question, faut-il s'inspirer des interfaces IA ?
On va être obligé, l'IA est en train de tout bouleverser. Le taux d'adoption, encore une fois, est énormissime. C'est très facile de voir si un système est populaire ou pas. On regarde quels sont les 100 premiers millions d'utilisateurs en tant de semaines, en tant de mois. Et ChatGPT a battu tous les records. C'était adopté plus vite que tous les autres services web. Donc, les jeunes, les moins jeunes, sont déjà habitués à communiquer, à chercher de l'information avec ces outils-là. C'est plus des moteurs de recherche, c'est des moteurs de réponse. C'est des systèmes de réponse. C'est très déroutant, c'est très différent de ce qu'on a vu. Donc, on va être obligé de s'intéresser à ça. Et Perplexity, OpenAI, ChatGPT et d'autres font évoluer leur système. Et il faut que les médias en prennent compte, puisque ça va être le premier accès au web. Je prends Perplexity ou d'autres, ils vont vous proposer, vous posez une question, ils vous donnent une réponse, et puis ils vont vous dire aussi, par exemple, mais est-ce que tu as pensé à me poser telle ou telle ou telle ou telle autre question ? Et ça, ils ont vu que ça marchait très fort, les gens cliquaient, ça leur donnait des idées. Pour les médias, c'est très inspirant.
Voilà, pour les médias, ce que tu observes et ce qui semble marcher actuellement, c'est le fait qu'en bas de certains articles, plutôt que de proposer des « lire aussi », comme on le voit sur de nombreux sites et comme on le voit sur le site de RFI.fr, par exemple, l'idée, c'est de proposer des questions sous-jacentes, d'autres questions, pour bien accélérer la circulation des utilisateurs au sein du site et faire que bien il y ait une sérendipité d'un lien à un autre pour les utilisateurs et donc plus de temps passé sur la plateforme.
Tout à fait, c'est ce qu'ont observé les géants de l'IA. Ils ont vu des taux de clics hallucinants sur ce genre de propositions qui sont encore une fois pas courantes, qui sont nouvelles. C'est plutôt que de proposer des liens vers d'autres articles, de dire mais est-ce que tu as pensé à me poser cette question-là ? Mmh. Et que finalement les sites se transforment aussi en moteur de recherche plus poussé pour vraiment avoir de l'information sur mesure et répondre sur mesure à l'utilisateur, au lecteur. C'est vachement intéressant. Après aussi, de manière plus globale, quand je suis rentré en France, je regardais mon téléphone, je voyais des navigateurs, je voyais des applications sur mon téléphone et je me dis je suis en train de regarder quelque chose peut-être d'historique, c'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ça va ressembler ? Actuellement, mon boulot de rédacteur chef numérique, c'était de faire des sites, de refaire des sites, de les remettre au goût du jour, de refaire des applications avec les équipes techniques, marketing. Là, ça va changer, quoi. Forcément, ces histoires d'amener l'information, de présenter des interfaces sur mesure, tout ça, ça va bouger très vite.
On va clore cette conversation autour de 10 infos à retenir de ton voyage dans la Silicon Valley, Aurélien Vierce, où tu t'es posé une question, en fait. Sommes-nous en 2025 ou en 1995, puisqu'il y a deux visions qui s'opposent pour l'IA dans les médias pour le futur très proche ?
Effectivement, quand je suis parti de France pour rejoindre San Francisco, il y a eu beaucoup d'articles qui disaient « mais l'IA, finalement, on a peut-être atteint un pic, les puces... » on a atteint une espèce de sommet, la data, comme je disais, il n'y en a pas beaucoup finalement, enfin il y a de la data mais elle est de mauvaise qualité, les réponses sont plus vraiment, les progrès dans les réponses données sont plus vraiment pertinents, est-ce que c'est pas déjà la fin d'une bulle qui va bientôt exploser, est-ce que c'est pas petit, et on voit des petites améliorations dans les rédactions, dans le journalisme, il y a plein de petits outils qui sont boostés à l'IA et c'est très sympathique. Et on peut se dire, finalement, ça, on va peut-être en rester là, quoi. Ça va être un outil pour la presse très sympathique, très utile, mais on va peut-être s'arrêter là. à San Francisco. C'était une vision complètement différente, bien sûr. Alors, c'est les Américains.
C'est très business, déjà.
C'est très business. Il y a beaucoup d'argent. Vous pouvez apporter une bonne idée et vous avez des millions qui tombent. Donc, forcément, ça encourage un peu à tout et n'importe quoi. C'est la définition d'une bulle. Au milieu de ça, il y aura quand même des bonnes idées et c'est comme un système qui est en train de tout bouleverser. Et beaucoup d'interlocuteurs nous ont dit, mais souvenez-vous de 1995. C'était quoi 1995? C'était Alta Vista, c'était Netscape. Donc pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu, il n'y avait pas Google, on ne pouvait pas poser de questions, on ne pouvait pas rentrer des mots-clés. Il fallait aller sur un système de liens ou si vous voulez chercher des informations sur le Cameroun, il fallait taper monde, puis information, puis Afrique, puis Cameroun, et puis ensuite avoir des liens vers des informations sur le Cameroun. C'est comme ça que ça se passait. On ne pouvait pas taper de mots-clés. Est-ce qu'à ce moment-là, on imaginait la naissance d'un moteur de recherche puissant comme Google? Est-ce qu'on imaginait les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a imaginé la vidéo en ligne? Est-ce qu'on imaginait TikTok? Est-ce qu'on imaginait tout ça? Non, on n'imaginait rien du tout. On se disait, c'est super cool déjà d'avoir ça, et c'est super intéressant. Et là, on se dit, il y a plein de choses qu'on voit. La version de ChatGPT de 2022, d'autres plateformes IA qui n'existeront peut-être pas dans quelques années. Souvenez-vous de Yahoo aussi. Yahoo, Google, c'était en compétition pendant longtemps. On s'est dit, qui va marcher, qui va être le plus gros? Yahoo était très fort pendant très longtemps. Yahoo, on n'en parle plus du tout maintenant, quoi. Donc, il y a des choses qui vont disparaître, il y a des choses qui vont naître. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça aurait beaucoup évolué. Et donc, il faut aussi se projeter, se dire, peut-être qu'on est juste au tout début de l'histoire, on est au tout début de l'histoire, et ça va s'accélérer, et on va vers quelque chose de complètement différent.
Bref, tout reste à écrire.
Tout reste à écrire.
Merci Aurélien Vierce.
Merci Stéphane Jambon.
Je rappelle que tu es journaliste et consultant. Merci pour ce retour d'expérience d'un voyage d'études sur l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, une conversation que l'on peut retrouver dans son intégralité dans le podcast de l'Atelier des médias. Je te dis à bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de l'Atelier des médias, une émission de radio disponible d'abord en podcast et ce dès le samedi matin sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, les applis Radio France et évidemment RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. C'est moi qui réponds. Simon De Creuse était à la réalisation, Stephen Jambot au micro. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.